Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde partie de notre émission à propos des deux fêtes, Shavuot dans la religion juive et Pentecôte chez les chrétiens, deux fêtes qui vont se célébrer très prochainement. Mes invités sont Meir Siboni, juif pratiquant de la communauté juive de Nantes, et Pierre Jounot, bibliste. Je vous rappelle que cette émission a été diffusée une première fois en 2015. La semaine passée, nos deux invités se sont attachés à définir le sens de ces deux fêtes, puis Pierre Jounot nous a rappelé le début du chapitre 2 des Actes des Apôtres, qui raconte que ce jour-là, les apôtres étaient réunis pour célébrer Shavuot, quand tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent, et c'est alors qu'apparurent des langues de feu, et nous connaissons la suite. Pierre Jounot, ce récit est-il significatif de la présence de Dieu parmi les hommes?
Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif parce qu'il est question du vent, du feu qui se manifeste, comme bien dans bien d'autres moments de la Bible.
Les mêmes attributs de la manifestation de Dieu.
Et donc c'est bien la manifestation de la présence de Dieu avec ces langues de feu en plus qui témoignent de la venue de l'Esprit sur chacun des apôtres. Ainsi, la bonne nouvelle qui concerne tous les hommes, le don de l'Esprit permet aux apôtres de répondre à l'appel du Christ par cette bonne nouvelle qui est reçue avec l'Esprit, être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme les apôtres, eh bien évidemment, pour aller jusqu'au bout du sens de la Pentecôte, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais au contraire à proclamer clairement et librement la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette responsabilité qui est rappelée régulièrement dans tous les textes, au Concile Vatican II, et puis par Jean-Paul II dans une allocution, dans une exhortation qui s'appelle Christi Fideles en 88.
Alors précisément, cet Esprit-Saint qui est cité dans la Torah et puis dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut le définir?
Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de l'Esprit-Saint dans la Torah, je pense que Meir serait plus à même que moi. Mais enfin, je peux déjà dire ceci au moins. Au-delà des différents sens du mot « ruach » dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, le vent, le souffle, l'esprit des prophètes, l'esprit, surtout l'esprit avec un grand E, notamment quand il est clair qu'il s'agit de l'esprit de Dieu, c'est la puissance active de Dieu dans le monde, la force divine qui travaille les hommes, pour que en eux s'accomplisse l'œuvre de Dieu. Œuvre de délivrance et de réconciliation, et qui pour nous chrétiens atteint sa plénitude dans le Christ. Et certains textes de l'Évangile, des Actes, des lettres des apôtres vont plus loin que ça, parce que finalement, les apôtres en sont venus à reconnaître que dans cet esprit-là, non seulement il y a une force divine, mais comme vraiment une personne. Alors là, on atteint le mystère de la Trinité, et c'est pas très facile à expliquer, parce que ça a été un peu, je crois, figé par la théologie et la philosophie grecque, surtout dans tout le monde latin et tout le monde romain. Donc c'est ce Dieu en trois personnes qui aurait peut-être pu s'exprimer autrement dans d'autres philosophies. Des tentatives modernes ont essayé de le faire. Et en tout cas, ça ne nous facilite pas le dialogue avec nos amis juifs.
Et non.
Est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver autre chose, d'en revenir peut-être aux fondamentaux et à l'esprit de la tradition juive qui nous permettrait peut-être d'exprimer les choses autrement.
Oui, le Dieu un.
Voilà. C'est bien le Dieu dont il s'agit et pas de trois dieux.
Mais c'est difficile à comprendre.
Ces trois termes de bruit, vent et feu, on les trouve surtout au moment de l'apparition du don de la Torah, les dix paroles. Hein.
Au Sinaï, bien entendu, ou à l'Horeb.
Alors, je vais vous proposer un instant une pause musicale qui va nous faire entendre un air que l'on chante à Shavuot et qui est chanté en ladino.
Yeah.
j'ai fait une erreur tout à l'heure. Ce n'est pas un chant ladino, mais c'est un chant en hébreu. Excusez-moi. Alors bien, je retrouve à présent mes invités, Meir Siboni et Pierre Junot, qui nous parlent aujourd'hui de la fête juive de Shavuot ainsi que de la Pentecôte chrétienne. L'une et l'autre de ces fêtes étant célébrées 50 jours après Pessah et Pâques. Pierre Junot, l'Esprit Saint se décline selon Isaïe en 7 dons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Reprenons le texte, si vous voulez bien. C'est au chapitre 11, verset 2.
D'Isaïe.
Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Ces dons, ce sont, comme je dirais, des dispositions suscitées par Dieu en l'homme pour lui communiquer le dynamisme de la vie divine. Alors, les chrétiens ont repris ça de la même façon, hein, pratiquement, sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte de Dieu et piété filiale. Les premières communautés chrétiennes ont tout de suite reconnu dans le serviteur de Dieu d'Isaïe, sur qui repose cet esprit de Dieu avec tous ses dons, évidemment, ils y ont reconnu le Christ, qui, par sa résurrection, s'était manifesté comme le porteur, comme le dispensateur du dynamisme de Dieu. Elles avaient vu dans l'événement de la Pentecôte la continuité de cette manifestation, l'Esprit du Christ communiquant cette force de Dieu à ses disciples, dont il faisait son Église, et depuis ce moment-là, l'Église continue à vivre des dons de l'Esprit qu'elle communique à ses membres par ce qu'on appelle les sacrements. Et évidemment, comment ne pas faire ici allusion à un sacrement parmi bien d'autres, parmi les sept, les six autres, le sacrement de confirmation, qui est d'ailleurs donné le jour de la Pentecôte, normalement aux adultes. Les Actes des Apôtres nous le disent clairement, ceux qui ont cru à la prédication apostolique et qui se sont fait baptiser ont reçu à leur tour le don de l'Esprit. Et depuis ce temps-là, les apôtres, par l'imposition des mains, donnent le don de l'Esprit qui porte à son achèvement la grâce du baptême. C'est ça, c'est bien ça le sens même du sacrement de confirmation, même si en plus il y a une onction d'huile maintenant qui s'est rajoutée.
Vous dites les apôtres continuent, ce sont les représentants des apôtres, c'est-à-dire les évêques.
C'est-à-dire les évêques, oui. Ou leurs ministres délégués.
Meir Siboni, qu'est-ce qui se passe dans la liturgie de Shavuot ? Quels sont les grands textes qui sont lus à cette occasion ?
Alors, les prières de Shavuot sont celles des trois fêtes, car elles font partie des trois fêtes de pèlerinage, avec Sukkot, la fête des cabanes, et Pessah, la fête de Pâques. Donc, on mentionne que c'est le jour où on a reçu la Torah. Dans la prière de Moussaf, le rajout, on mentionne les sacrifices particuliers de la fête qui étaient pratiqués dans le temple de Jérusalem. On dit le Hallel, qui est le louange, qui consiste à la lecture de six psaumes, du psaume 113
à 118.
Il y a bien sûr la lecture des rouleaux de la Torah, les dix paroles. Une particularité de la fête des Shavuot est la lecture des poèmes religieux, dites piyutim, qui vient de grec, de mots poétesse. C'est une œuvre littéraire artistique qui exprime les sentiments et l'expérience sous une forme rythmique. Donc les piyutim sont des chansons chantées par le public pendant la prière. Il y a deux genres de ce poème. Les poèmes récités par les communautés ashkénazes, les communautés de l'Europe de l'Est, ils se nomment Akdamut, ça vient du araméen prologue.
Je vous coupe la parole, Meir, je suis désolée, mais je vois le temps qui avance, et comme je voudrais que nous parlions malgré tout du livre de Ruth, je crois qu'il faut que nous abordions maintenant cette question-là. Le livre de Ruth qui est un moment important, qui est lu pendant la fête de Shavuot, et pourquoi cette lecture au moment de Shavuot ?
D'accord, présentons d'abord le livre ou le rouleau de Ruth, ce petit livre, 4 chapitres. Il propose au lecteur un récit concernant les origines de la famille du grand roi David. Il explique comment une Moabite, Ruth, va devenir, par son union avec Boaz, l'arrière-grand-mère du roi. Le livre commence par présenter l'origine de Ruth. Elle est Moabite. Elle est l'épouse d'un Israélite dont le père, originaire de Bethléem, était venu s'installer dans le pays de Moab à la suite d'une famine en Juda. Après quelques années, le mari de Ruth décède. Elle se retrouve seule avec sa belle-sœur également veuve et sa belle-mère, Noémie veuve également. n'a plus rien qui la rattache au pays de Morave, la prospérité étant revenue en Juda, elle décide donc de rentrer dans le pays de son mari. Ruth accompagne Noémie malgré ses efforts de la dissuader et les deux femmes arrivent à Bethléem. Dépourvues de ressources, les deux femmes en sont réduites à glaner, c'est-à-dire à récupérer le grain abandonné dans les champs après le passage de moissonneurs. Le propriétaire du champ, Boaz, remarque Ruth et décide de l'aider. Avec beaucoup de délicatesse, il s'arrange pour que la jeune femme ramasse plus de grains que ne le permet le simple glanage. Après quelques péripéties, on ne va pas rentrer dans les détails, il épouse Ruth, dont il aura une fille Obed, le grand-père du roi David. Ben, revenons à la question, pourquoi la lecture de livre de Ruth? Différentes raisons on a indiquées par nos sages pour le choix de cette lecture, à l'occasion de la fête de Matan Torah, l'acceptation de la Torah. La première des raisons qui justifie ce choix, c'est parce que les événements marquants de ce récit se sont déroulés au commencement de moisson du blé, donc à l'époque de Shavuot. Évidemment, cette raison technique ne nous satisfait pas. Je vais évoquer une autre raison qui a un lien direct avec la fête de Matan Torah, l'acceptation de la Torah. Nous savons que le peuple d'Israël, à la veille du don de la Torah, accepte l'alliance proposée par Dieu, c'est-à-dire le joug des commandements. Ceci se fait par la Tevila, l'immersion dans l'eau, le baptême, et la circoncision. Or, c'est les conditions exigées pour toute personne qui veut se convertir au judaïsme. Et en lisant le livre de Ruth, ce jour-là, le jour de Shavuot, nous rendons hommage à celle qui est devenue prosélyte dans l'élan de son cœur et qui est devenue ainsi l'ancêtre de la dynastie royale. Le livre de Ruth est le texte de la conversion, non seulement du point de vue des idées, mais aussi de la législation religieuse. C'est en effet Ruth, la Moabite, qui nous enseigne les règles régissant la conversion, d'où la coutume dans les communautés juives de lire ce texte, la fête de Shavuot, moment qui commémore le don de la Torah, et à laquelle participent les convertis qui acceptent la Torah et ses préceptes.
Oui. Est-ce que je peux donner la parole ?
Entre parenthèses, le christianisme doit son existence à Ruth, car Jésus se réclame comme descendant de la dynastie de la dynastie de David. Mais je pense que Pierre pourra nous dire
oui,
davantage.
Alors justement, je voudrais savoir, demander à Pierre si les chrétiens connaissent le livre de Ruth.
Eh bien, très peu, je pense. Et c'est bien dommage, mais il faut avouer que l'Église catholique ne leur facilite pas la lecture parce qu'on ne trouve dans aucune trace dans la liturgie dominicale des différentes églises, aucune trace du livre de Ruth. Et c'est bien dommage parce que avec ce livre de Ruth, et Meir vient de nous en donner quelques indications, nous nous citons avec ce livre dans une interprétation, je dirais, généreuse de la Torah, qui oriente vers des solutions marquées par ce qu'on appelle la chesed, donc la fidélité, mais une fidélité amoureuse, généreuse, la compassion, l'amour. C'est ainsi qu'elle permet à une Moabite, fille d'un peuple maudit qui n'avait même pas place dans le peuple d'Israël, de devenir l'arrière-grand-mère de David. Et c'est ce que Matthieu, l'évangile de Matthieu, rappelle dans la généalogie de Jésus. Donc, pour le livre de Ruth, le centre de la Torah, c'est bien cette chesed, cet amour fidèle. Et je pense que ce serait un texte qui pourrait, je crois, faire comme un point de rencontre juif-chrétien important, au même titre que d'autres livres bibliques, parce que nous, chrétiens, nous pensons évidemment là-dedans à la manière dont Jésus comprenait la loi. Bien sûr, une loi qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir.
Merci à tous les deux, merci Bonnie et Pierre Jounot pour les éclairages que vous venez de nous donner à propos de la fête juive de Shavuot et de Pentecôte. Je crois que nous aurions pu rester encore beaucoup plus longtemps. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.